L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, nous retrouvons enfin nos voisins du Centre départemental d'archéologie du côté de l'Antiquité. Car oui, il y a eu une armorique antique. On le sait, les archéologues se penchent sur ces vestiges. Du côté de Plomelin, il y a par exemple la belle villa du Pérennou avec ses thermes. Des thermes, on en a aussi à Carhaix et bien d'autres choses, puisque c'était Vorgium. Et aujourd'hui, nous allons plus au nord du Finistère, avec Ronan Bourgault, le directeur du centre départemental, qui est aussi archéologue spécialisé dans l'Antiquité. Ça tombe bien. Bonjour Ronan.
Oui, bonjour.
Alors cette villa gallo-romaine de Kéradennec à Saint-Frégan, alors déjà, Saint-Frégan, il faudrait nous situer un petit peu où c'est, et puis sur quelle voie romaine éventuellement.
Saint-Frégan, c'est une jolie petite commune qui se situe entre l'Est-Nevin et Plouguerneau. Et au sud de Kerloin, donc on est vraiment sur la côte nord. Voilà.
Et elle est connue pour cette, enfin, elle est connue des spécialistes bien sûr pour cette villa gallo-romaine.
Oui, bien sûr. Alors pas que, hein, vite fait, on peut citer également le château de Pinmar qui est très connu pour la période médiévale, mais effectivement pour la période antique, la villa gallo-romaine de Kéradennec, c'est le nom du lieu-dit, le nom de la villa. C'est un marqueur très connu chez les archéologues qui a été fouillé dans les années 70.
Voilà, donc c'était ma question. Depuis quand est-ce qu'on sait qu'il y a une villa gallo-romaine ?
Alors on le sait depuis le 19e siècle. C'est un notable local qui s'appelait Daniel-Louis Miorsec de Kerdanet qui, le premier, a, alors pas découvert puisque les populations forcément connaissaient les ruines qui étaient très, très visibles dans le paysage.
Ah oui, il y avait encore de belles ruines.
Il y a de très belles ruines.
Ah oui. D'accord.
Mais c'est lui qui, le premier, a identifié ces ruines comme celles de vestiges importants d'époque gallo-romaine et qui en a parlé, en fait.
Il a fait une publication. Enfin, il n'était pas spécialement archéologue. Enfin, il était archéologue amateur.
C'était un érudit local, donc oui, amateur, bien sûr. Oui. Donc lui avait identifié les ruines comme étant celles potentiellement de la ville légendaire de Tolente. Donc une ville... voilà, qui sort un petit peu de l'imaginaire des scientifiques de l'époque.
Qui est censé être une ville antique ?
Voilà, qui est censé être une ville antique. Bon, c'est basé sur des textes anciens, médiévaux, etc. Mais qui n'a jamais été, repéré.
Ouais.
Voilà. Et en fait, il s'est avéré, mais bien après, que ces ruines-là étaient celles non pas d'une ville, mais d'une villa. Mais effectivement, c'était suffisamment important pour attirer l'attention et pour s'imaginer que c'était peut-être une ville.
Qu'est-ce qu'on voyait en gros
Des murs, des amas de pierre, beaucoup de tuiles. Alors bon, y a des textes qui mentionnent qu'il y a eu des inscriptions. Il y a eu des découvertes de monnaie, par exemple, des céramiques, forcément. Enfin voilà, donc tout ce qu'on a l'habitude de trouver sur les sites archéologiques d'époque romaine, voilà.
Et alors les fouilles donc de 1968 à 74, donc là ce sont des vraies fouilles archéologiques, c'est
ça ? Oui, elles ont été menées de 1968 à 74 par René Sanquer, qui était directeur des antiquités de Bretagne à l'époque, et donc qui était antiquisant, qui a touché, on va dire, à beaucoup de sites romains sur le secteur du Finistère, notamment. Donc, bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Kervénénec, etc., à Pont-Croix. Et donc, il a été rejoint rapidement par Patrick Galliou, professeur à l'Université de Brest. Et puis, voilà, ils ont mené quand même des fouilles de bonne qualité pour l'époque, et c'est aussi ça l'intérêt de ce site.
Oui, c'est ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire de, il y a des erreurs qu'on faisait dans les années 70 qu'on ne ferait plus maintenant, mais là, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Enfin, c'est ça, ça veut dire quoi des fouilles de bonne qualité, en fait ?
Alors, c'est-à-dire que les fouilles archéologiques, de nos jours, c'est extrêmement précis en termes de méthodologie. On ne fouille pas n'importe comment. On étudie les strates les unes après les autres. On découvre les murs, on essaye de voir... dans quelle stratigraphie justement il s'insère. Enfin voilà, on étudie tous les liens, absolument tous les liens, de façon extrêmement systématique et précise. Avant, ce n'était pas forcément le cas, même si de toute façon, on se doutait bien qu'il fallait aller vers une méthode précise, quoi. On a eu la chance en Bretagne d'avoir Sir Mortimer Wheeler, qui a travaillé dans beaucoup d'endroits. Je pense par exemple à Huelgoat, par exemple. Voilà. Et ce monsieur a inventé une méthode qu'on appelle la méthode Wheeler.
Ah, c'est le même qui a travaillé sur le camp d'Artus aussi
Voilà, c'est ça. Oui,
d'accord.
Et cette méthode consistait à fouiller par carré de 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, c'est la fameuse méthode Wheeler qui a été appliquée dans énormément d'endroits et puis de façon systématique dans ces périodes-là. Et donc ça a été appliqué du coup également sur la villa romaine de Karadenek.
Donc Karadenek a été fouillé quand même pendant 6 ans, donc c'est pas mal déjà. Et qu'est-ce qu'on a appris à l'époque ?
Alors juste pour terminer sur Wheeler... sur cette méthode, l'intérêt pour nous qui allons reprendre les investigations dans le futur, c'est que la méthode a permis de laisser des banquettes de terre intactes, non fouillées, qui vont nous permettre, nous, de raccrocher à la stratigraphie qui a été observée et enregistrée à l'époque.
Voilà, ah ouais, donc... Ça, c'est important pour la datation, quoi. Ouais. Et donc, oui, je voulais savoir dans ce qu'on avait appris, en gros, ce que les premières fouilles des années 70 avaient appris sur la villa de Karadenek.
Alors, en fait, les premières fouilles ont eu l'intérêt de nous fournir, dans un premier temps, un établissement thermal extrêmement bien conservé.
Il n'y avait pas les planchers, quand même.
Quasiment. Ah, quasiment. Wow. En tout cas, il y avait les sols en béton. Donc le béton romain d'époque, qui est un béton de tuileaux, étanche, etc., avec les systèmes qu'on appelle l'hypocauste, donc de chauffage par le sol, à partir d'un foyer situé à l'extérieur du bâtiment, et puis qui rayonne dans le sous-sol et le long des murs, avec des bassins, baignoires notamment.
Et c'était des thermes de belle taille ou
Des thermes assez conséquents, oui. Bon, voilà. Mais ça reste des thermes privés. Et donc, d'année en année, autour de ces thermes, on s'est... la fouille s'est étendue et petit à petit s'est révélé le plan d'un très grand bâtiment, donc d'une villa romaine.
D'habitation.
Et en fait, voilà, ce que j'allais dire, c'est que de la villa, il s'agit de ce qu'on appelle, nous, la pars urbana, donc la partie d'habitation du maître, du seigneur de l'époque.
Ouais, voilà. Parce qu'il faut rappeler ce qu'était une villa. Une villa, nous, enfin, c'était pas une maison seulement, c'était tout un ensemble, en fait, c'est ça. Hein.
La villa, en fait, c'est un terme qui désigne une grande exploitation agricole, voilà, à l'époque romaine. Et donc, c'est composé globalement de trois grandes parties, pour schématiser, qui sont, comme je viens de le dire, la pars urbana, donc la résidence privée luxueuse, en règle générale, du maître, du propriétaire. La pars rustica, donc en fait qui est la partie d'exploitation rurale, fermière.
Les bâtiments agricoles en fait.
Voilà. Mm-hmm. Et au sein de cette pars rustica, qui pouvait abriter également les populations des ouvriers, voire des esclaves, mais bon, là c'est beaucoup plus difficile à mettre
pas.
En évidence.
Ah, oui. Non,
mais voilà. Au sein de cette partie, il y a également la pars fructuaria, qui est proprement la partie où on conserve les productions agricoles, donc le grain en règle générale. Quoi.
Et donc là, à Karadenek, dans les années 70, on a identifié les trois pars.
Non.
Artiste,
non. on a identifié exclusivement la pars urbana, donc qu'on appelle la villa par simplification. Donc comme je disais, ils ont les fouilleurs d'alors, René Sancar et Patrick Galliou ont réussi à sortir un premier plan qui s'avère être très proche de la réalité, même si ils n'ont pas fouillé la totalité du site. Et donc, il s'agit d'un grand bâtiment luxueux, donc comme je l'ai dit, doté de thermes privés, et puis avec donc centré autour d'une cour, ornée de, enfin bordée d'une galerie, au moins sur trois côtés. Voilà.
Ah ouais,
à cette
vraiment.
Époque, c'est ce qu'on savait.
L'archétype de la belle maison romaine, hein, c'est
ouais.
De campagne en tout cas. Quoi.
Tout à fait.
Ouais. Et comment ils ont évalué ? Enfin, ils ont pu quand même évaluer la surface globale du site, enfin de la villa et de ses terres agricoles éventuellement. Enfin.
Alors, dans leur vocabulaire, il était question du château romain de Karadenec. Alors effectivement, ça peut prêter à sourire, mais l'idée est simple, c'est que globalement, le concept de château, avec des gros guillemets bien sûr, romain, c'est quelque chose qui désigne de grandes villas du nord de l'Afrique, donc d'Afrique du Nord. Donc où on est vraiment dans des choses luxueuses et de grande dimension. Donc voilà, c'était par analogie vraiment, parce qu'effectivement, quand on compare cette villa de Karadenec à d'autres villas connues en Bretagne, on vous avait cité Plomelin, on peut citer également un peu plus près de Saint-Frégan la villa de Valicloître à La Roche-Maurice. Sont des villas en règle générale de petite dimension. Enfin, je parle toujours de la pars urbana, de la maison du maître. Là, on était vraiment dans des dimensions exceptionnelles.
Mais pour en revenir à cette notion de château, est-ce que ces villas gallo-romaines agrégeaient quelques habitations aux alentours comme une sorte de village, ou est-ce que c'était quand même relativement isolé finalement?
La question effectivement se pose, à nous d'apporter une réponse désormais.
Et
puisque
voilà,
comme je le disais, ils se sont vraiment concentrés, il y avait les moyens de l'époque aussi, sur la pars urbana exclusivement.
Alors là, après, il faut parler. Alors peut-être juste pour situer, c'est pas étrange qu'il y ait une villa gallo-romaine à cet endroit-là, enfin, par rapport à ce qu'on sait de la géographie romaine.
Non, c'est pas du tout étrange. Et elle est insérée dans un paysage antique qu'on connaît relativement bien, mais bon, auquel on ajoute toujours des éléments nouveaux au fur et à mesure des découvertes. Mais elle est située à peu de distance au nord de l'actuelle route départementale 32, identifiée comme la voie romaine reliant la petite agglomération de Vorganium, actuellement Kerylien en Plounéventaire, à la côte du côté de Plouguerneau. Voilà. L'intérêt de la villa de Karadenec, c'est que, a priori, dans l'état actuel des connaissances, c'est le seul gros bâtiment, la seule grosse villa de connue dans ce secteur du Léon. Donc, dès à présent se pose la question du statut de cet établissement. Voilà. C'est pour ça que je dis que messieurs Sancerre et Galliou n'avaient pas entièrement tort de parler de château, parce qu'on peut imaginer, mais bon, là, c'est la suite des études qui le dira. Pour l'instant, on peut imaginer qu'on était sur un édifice relativement atypique, en tout cas pour ce secteur, hein, c'est pas atypique ailleurs en Gaule romaine, mais pour ce secteur, oui, qui, selon moi, pouvait gérer économiquement, enfin, agricolement, je ne sais pas si on peut le dire, mais économiquement, un grand territoire.
Ah voilà. Oui, c'est ça. Et donc, il y a un contexte politique maintenant, en tout cas, qui est important, c'est que Saint-Frégan, la commune de Saint-Frégan, s'est vraiment intéressée à ce site.
Alors oui, bon, ça fait un moment hein, qui s'intéresse forcément à ce site, mais c'est vrai que la commune de Saint-Frégan, donc et notamment Cécile Galliou, donc la maire de Saint-Frégan,
elle a un rapport avec Patrick Galliou?
Non, 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 c'est un hasard. Donc la commune a souhaité, a demandé à la DRAC de Bretagne, donc au ministère de la Culture, la possibilité de mettre en valeur ces ruines qui étaient encore visible pour partie dans un sous-bois. La DRAC a dit pas de problème, bien sûr, évidemment, à deux conditions. L'une, c'est que ce soit sur un terrain privé, un terrain public, donc acheté par la commune ou par la communauté de communes, etc. Et l'autre, c'est que des fouilles soient menées pour savoir exactement ce qu'on met en valeur. Donc,
l'achat, ils ont réussi à.
Le challenge a été fait, l'achat a été. Fait par la commune, avec bien sûr l'aide de la DRAC et du conseil départemental du Finistère.
C'était devenu des terres agricoles ?
C'était des terres agricoles, pour partie. Ouais. Et puis, en ce qui concerne la fouille archéologique, ils ont dit « Ok, chiche, mais donnez-nous les archéologues. Voilà. »
Ah, et c'est là que le CDA intervient, non ?
Alors c'est là que le musée du Léon intervient. Parce qu'en fait, la fouille est portée par le musée du Léon, qui est situé à Lesnevin. Et scientifiquement, effectivement, par le conseil départemental. Ouais.
Et alors, qu'a fait le conseil départemental là, jusqu'à présent ?
Alors, le conseil départemental, il a soutenu la commune dans l'achat de parcelles. Donc, sur le budget d'une commune rurale de petite taille, c'est une aide non négligeable. Et puis, l'État également a joué son rôle là-dedans. Ensuite, Le conseil départemental, au niveau du dossier archéologique, apporte un conseil scientifique et apporte une logistique d'études, de laboratoires, de dépôts, etc.
Et le centre, alors, départemental, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ?
Alors, le centre...
Puisque c'est vous, en fait.
Oui. Ce qui a été fait, c'est une prospection. En fait, un ensemble de prospections pour déterminer vers quoi on va se diriger en termes de recherche archéologique dans les années à venir. Voilà.
Parce qu'on ne peut pas fouiller les 4 hectares d'un coup. Quoi. C'est ça,
on
ne
peut
fait.
Pas fouiller les 4 hectares d'un coup. Et on ne sait pas forcément où fouiller, et puis on ne va pas tout fouiller non plus. Voilà. Il faut savoir également qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, qu'est-ce que la commune va mettre en valeur.
Alors, comment on fait ? D'abord, on regarde les vues aériennes, c'est ça, en premier ? Non,
voilà, on a fait une première campagne de prise de photos par drone.
Vive les drones, hein, franchement.
Les drones, en plus, voilà, maintenant, ils sont de qualité exceptionnelle, forcément de mieux en mieux, etc. Donc, on a des prises de vue de très bonne qualité, en grand nombre. Donc ces photos, on a pu les traiter.
Oui, c'est ça. C'est des photos normales, mais qui sont passées à une moulinette, c'est ça ?
Ils sont passées dans une moulinette, mais assez simple. Hein. On ne va pas citer de marque, mais bon, c'est des traitements d'images basiques, mais qui permettent, en jouant sur les contrastes, les couleurs, les négatifs, etc., petit à petit, de faire apparaître les traces qui sont conservées dans le sous-sol, et qui, comme par magie, donc se révèle depuis les airs.
Donc des fondations de murs, en fait, c'est ça.
En règle générale, ouais. Sont les fondations de murs, oui.
Ça peut être autre chose ? On peut voir autre chose ?
Oui, on peut voir des grosses taches incompréhensibles aussi.
Oui, les fameuses grosses taches incompréhensibles.
Voilà, et puis qui peuvent correspondre à des résurgences géologiques. Voilà, ça peut être... Oui. Des zones plus humides qui réagissent sur la croissance des cultures, par exemple, ce genre de choses.
Et donc, c'est pour ça que les photos ne suffisent pas, il faut aller plus loin, c'est ça, dans la prospection ?
Alors, les photos ne suffisent pas, en effet, à établir le plan. C'est-à-dire qu'il y a des cas, effectivement, ailleurs, écoles, je pense à la Villa du Q, pas loin de Dinan, où les photos aériennes, rien que les photos aériennes révélaient le plan de l'établissement. Pour autant, ça ne suffit pas, effectivement. Quoi. On a mis en place, avec la société GeoCarta, qui est une société spécialisée dans la prospection géophysique, donc dans une forme de radiographie, si on peut comparer ça, du sous-sol. Donc, on a fait une prospection géophysique.
Alors, ça consiste en quoi, en gros ?
Alors, on avait plusieurs choix, donc... Je vais vous dire des termes peut-être un peu barbares, par magnétométrie, etc. Nous, on a choisi la résistivité électrique, voilà. Pour tout un tas de raisons très valables.
Sûrement, sûrement.
Que je ne vais pas détailler, mais bon, globalement, le terrain s'y prêtait bien.
Donc la nature du sol et tout ça.
Voilà, la nature du sol, une culture de... Je crois que c'était en luzerne à ce moment-là, etc. Donc en fait, ça consistait à passer un petit traîneau tiré par un quad qui a balayé la totalité des 4 hectares, sauf forcément les parties boisées, donc en aller-retour comme ça, du haut en bas du champ. Et donc ce petit traîneau était équipé de 3 jeux d'électrodes qui envoyaient dans le sol, par des systèmes de roues à pic, un courant électrique. Ce courant électrique, en fonction de ce qu'il rencontrait, envoyer une réponse de forte résistivité, résistivité moyenne, ou de sol conducteur.
Donc ça dépend de la nature du sol. Enfin, c'est par exemple, ça réagit différemment si ça rencontre un objet métallique ou pas, ou non, c'est plus en fonction de la...
Oui, la nature du sol. Alors métallique, oui, même si ce sera plutôt la magnétométrie, là, pour le coup, qui sera utile sur le métal, mais ce n'est pas les objets qu'on cherche, hein, c'est... Les archéologues cherchent les sites. Les objets servent à documenter.
Ça renvoie des trous ou des...
Exactement. Ça renvoie un écho différent selon que le courant rencontre un mur,
voilà, d'accord,
ou un trou rempli de terre. Mm-hmm. Voilà.
Donc ça permet de détailler en fait les...
Alors si on compile tous les échos renvoyés par ces électrodes, on arrive à cartographier ce qu'on appelle les anomalies. Cette cartographie, donc reportée à l'échelle de la parcelle, etc., permet de faire apparaître le plan des structures qui sont enfouies dans le sous-sol.
Beaucoup plus détaillé ouais, que par photographie aérienne.
Voilà, et ça a été très, très positif.
On va le dire, on va juste terminer avec les prospections. Il y a eu aussi une prospection à pied, c'est ça?
Voilà, c'est la troisième partie, en fait, le troisième volet de cette exploration préliminaire. Alors, l'exploration pédestre a concerné non pas la parcelle où se trouve la Pars Urbana qui a été fouillée, parce que cette parcelle était en herbe, donc on ne pouvait pas voir quoi que ce soit. Elle a concerné une parcelle à côté, qui, elle, était labourée. Et la prospection pédestre consistant à récupérer, enfin à noter, à positionner les objets qu'on peut trouver. En règle générale, ce sont des fragments de peau, de céramique. Voilà. Donc cette prospection a été assez fructueuse dans le sens où on est allé donc sur un terrain qui a priori était pas concerné par la villa, mais en fait si, on a réussi à noter des concentrations d'objets. Qui nous ont permis, par exemple, d'observer l'emplacement d'une possible forge. Ah. Voilà, en ayant trouvé des scories, enfin des concentrations anormales de scories de fer, donc de rejet de forge. Il y a des zones sans céramique, d'autres avec céramique. Donc on arrive à situer dans son ensemble les zones a priori occupées, des zones vides. Il y a des secteurs même qui ont livré des moellons de pierre. Parfois même avec des fragments de mortier de chaux. Donc moellons de pierre pour plus mortier de chaux. Là, on est à fond dans la civilisation romaine, c'est parfait.
Ce serait plutôt de l'habitation, quoi, s'il y a du mortier de chaux, a priori, non?
Alors, habitation, pas forcément. Ça peut être, oui, de l'habitation. Ça peut être de l'artisanat ou en tout cas des constructions en lien avec l'activité artisanale ou agricole. Ça peut être aussi du temple, des restes de temples, des temples privés. Ça peut être des restes de monuments funéraires. C'est des choses qu'on arrive de plus en plus à percevoir. C'est des choses qui, en règle générale, je pense aux monuments funéraires, laissent assez peu de marques au sol. En plus, en Bretagne, les squelettes ne sont pas conservés du fait de l'acidité des sols. Mais donc, en termes d'architecture, si on a un petit carré d'un mètre sur un mètre de côté avec une fondation de pierre liée au mortier de chaux, a priori ça dit rien, sauf que ça peut tout à fait correspondre à une pile funéraire par exemple, donc c'est cette espèce de pilier de pierre maçonnée assez haut, hein, ça peut monter jusqu'à 5-10 mètres, ça dépend des secteurs, et avec à l'intérieur les restes en règle générale incinérés des défunts. Voilà.
Et alors les prospections géophysiques, qu'est-ce qu'elles ont donné? Qu'est-ce qu'elles vous ont appris alors?
Les prospections géophysiques, elles nous ont permis de préciser le plan qui avait été produit par messieurs Sanquer et Galliou dans les années 70. Alors, d'une part, ça a permis de confirmer effectivement les choses qu'ils avaient vues. Mais enfin bon, effectivement, ils n'allaient pas se tromper vu qu'ils ont fouillé certaines parties. Mais ça nous a permis de compléter vraiment ce plan en ajoutant de possibles pièces. En certifiant que la totalité de la Pars Urbana était bien centrée sur les quatre côtés de bâtiments. Avec là, pour le coup, on n'arrive pas à déterminer si la galerie fait trois ou quatre côtés, mais la cour, en tout cas, elle est vraiment entièrement enfermée. On n'est pas sur un bâtiment en U. Voilà. Il y a des éléments qui apparaissent très, très fortement. On sent qu'il y a des zones qui sont très fondées, très puissantes, sur lesquelles on va peut-être insister quand on ira faire nos explorations complémentaires, qui peuvent éventuellement correspondre à des tours.
On s'approche du château, là.
Oui, alors après, on n'est pas sur des grosses tours médiévales. Mais bon.
D'habitation, quoi.
Oui.
Ouais. Ostentatoire un peu, quoi.
Voilà, plus ça, en effet. Ouais. Et puis, d'autres zones alors qui sont organisées. Alors, on sent qu'il y a soit des fondations, soit des fossés, mais qui sont tous organisés de façon orthogonale et a priori dans les axes de la villa, enfin de la Pars Urbana. Il est difficile à ce stade de l'étude d'interpréter, mais qui montre dans tous les cas que dans la diachronie, c'est-à-dire dans l'ensemble des époques, sans vraiment cibler une période précise, qui montre que le site était très structuré et de très grande taille. On est sur un des sites, En fait, ça confirme ce qu'on supposait, mais on est sur un des sites les plus importants, une des villas les plus importantes de Bretagne.
Ouais. Et donc là, on a confirmé aussi son âge, enfin son époque, je suppose.
Oui, ça, c'est la prospection pédestre qui a permis de... Alors,
et donc, c'est quoi, elle date de quand, exactement ?
Elle a été fondée, a priori, au 1er siècle après Jésus-Christ, mais bien évidemment, il n'est pas exclu du tout. Enfin, on sait même qu'il y a des occupations antérieures, voilà, qui conviendra d'étudier, de mettre en évidence, mais ça sera vraiment la fouille qui le dira, en revanche. Par contre, sur la prospection pédestre a livré du mobilier céramique qui est très bien ancré dans cette période 1er, 3e siècle, 1er, 4e siècle après Jésus-Christ, et puis quelques tessons du 5e.
Donc, ça a une occupation qui a vraiment duré longtemps.
Voilà, ouais, ouais. Voilà, mmh. 500 ans, ouais.
Bon, alors là, voilà, on arrive à la fin de l'émission, donc ça veut dire qu'on va devoir refaire une émission.
Sur la suite.
Bah voilà, sur la suite, c'est-à-dire les objectifs 2022.
D'accord.
Bon, ça sera avec plaisir. Merci.
Merci.